Merci, bonjour, et merci en particulier à Jean-Luc Fournet pour cette invitation à parler d'Aura Pollon, dont les études vont connaître sans doute ont déjà connu un coup de semonce et peut-être un coup de jeûne qu'il mérite. L'avantage de parler après les orateurs qui m'ont précédé me permettra d'éviter, j'espère, certaines redondances. Aura Pollon reste te riche au bout de ce début de conférence, mais il a été question d'intention, d'une intention peut-être mystérieuse de l'auteur, et cela m'aidera à développer mon propos. Je souhaiterais, à partir des hiéroglyphica, confronter la teneur et la mise en forme des données zoologiques nombreuses dans ces textes, dans trois œuvres qui me paraissent pouvoir être abordées conjointement, les hiéroglyphica, le physiologus et les cyranides. Mon idée est que la perspective classique d'étude des relations entre textes de savoir, en particulier impliquant un savoir naturaliste, est généralement trop étroite. On envisage essentiellement, d'un point de vue moderne qui se proclame objectif, ce savoir en termes de vérité scientifique, de pertinence naturaliste et de fidélité à des exigences et à des méthodes définies dans l'école péripatéticienne. Comme si d'autres usages savants et divergents de l'observation empirique parfois n'avaient pas de légitimité ou ne pouvaient être que des erreurs dues à l'incompétence ou à une transmission accidentelle, défectueuse. Le discours naturaliste de ces trois œuvres est discrédité sur deux plans, infidélité aux sources et infidélité aux données empiriques. Je voudrais rapidement suggérer de manière positive, en les confrontant, le type de savoir qu'ils construisent dans le cadre d'un projet sémiologique qui révise et harmonise les natures animales, donc un savoir culturel positif. Il est vrai qu'il y a un retraitement profond des données zoologiques, la construction de modèles animaux qui relèvent, qui sont sélectionnés, façonnés pour servir un projet herméneutique. Cela relève soit d'une déformation, soit, comme je le pense, d'une reformation. Je ne ferai pas d'études de sources, la question des sources, la Quellenforschung, y compris pour Aura Pollon, a pu passionner les savants, surtout au XIXe siècle, dans la première moitié du XXe siècle. C'est sûrement une question historique et philologique très importante, mais le tournant sémiologique que peuvent constituer ces trois œuvres globalement dans un même spectre chronologique est, à mon avis, tout aussi intéressant. Le défaut natif, à mon sens, là il s'agit d'un petit point méthodologique, de la recherche des sources, outre la disparition d'un nombre considérable de textes potentiellement intermédiaires ou co-influents, est qu'elle repose sur l'idée d'une stricte transmission graphique et d'une transcription immédiate, et qu'elle ne peut pas prendre en compte, se charger de la transmission orale, il y a des informations qui circulent évidemment, ni de la transcription différée, soumise à des distorsions hétérogènes et qui génèrent d'autres types de mutations des données. Alors il s'agit donc ici d'une approche horizontale ou synchronique et non diachronique ou d'études d'influence qui tentent à concevoir les reformations comme des déformations. Alors ces œuvres ont en commun, et c'est au début de l'exemplier le petit passage que je vous ai donné non noté, un certain nombre de points communs. Ils appartiennent à la période impériale tardive, voire byzantine. Ils sont des stratifications de pseudépigraphes, collections de chapitres dont la formation est progressive. Il y a trois collections pour le physiologus. Il y a pour les cyranides aussi une succession, un premier livre, puis un bloc de 2-5, voire de 6, puisqu'il y a quelques un appendice de livres sur les pierres, et il constitue une tradition qui est, pour ainsi dire, un genre, et en particulier pour le physiologus et les cyranides. Autre point commun, ils accordent une large place aux animaux. Ils ont également un dispositif duel. Les chapitres comportent une partie interprétative et une partie de description naturaliste. Pour les cyranides, l'interprétation consiste en des recettes thérapeutiques qui découlent plus ou moins de caractéristiques naturalistes, même si celles-ci sont parfois implicites. Enfin, ils sont des vecteurs d'intégration culturelle les hiéroglyphicains ne portent pas sur les hiéroglyphes, mais sur la culture égyptienne, plus, ou tentent en tout cas, selon moi, de proposer un ensemble de compréhension d'interprétation culturelle à une époque que l'on a qualifiée comme une époque de totale décrépitude de cette écriture. Sur le premier livre, alors je me fonderai essentiellement sur le premier livre, sachant donc, comme on l'a dit, qu'il y a une composition un peu particulière et discutable. Et sur ce premier livre de 70 chapitres, il y a 48 chapitres qui portent sur des figures animales, donc une grande importance de cette portion-là. Donc le Physiologus, c'est le 2e ou 4e siècle, disons, d'après des critiques qui ne s'accordent pas, les Cyranides, 1er ou 2e selon Caïmachis, ou 4e selon Alpers, et pour Aura Pollon, 5e à la période byzantine, ou 1er à la... Bon, mais la datation d'Aura Pollon, on vous la laisse en suspens. Alors, pour commencer, sur la stratégie et le dispositif des hiéroglyphica. Ces trois textes, en fait, illustrent ce qu'on pourrait appeler une herméneutique gréco-égyptienne ou alexandrine. On pourrait invoquer aussi la clé des songes qui a été signalée dans une communication et qui est le foyer de toute l'exégèse occidentale. L'écriture hiéroglyphique est perçue par les Grecs plus tard que comme Clément d'Alexandrie, pour qui c'est le degré ultime de l'écriture égyptienne, comme une idéographie qui pratique l'allégorie et use de l'énigme, et c'est le texte 1. Le texte des hiéroglyphiques s'inscrit dans la tradition de ce que l'on a appelé, ou critique, et Andreas Stauder ce matin a critiqué cette expression, la cryptographie d'époque gréco-romaine et la tradition hermétique. Cela correspond à l'idée répandue que les éléments de la langue égyptienne ne sont pas conventionnels, mais sont liés à la nature des choses, de manière organique, cratiléenne, au plus haut degré. Notons que les références à la tradition hellénistique tardive du Physiologus et des autres bestiaires sont très présentes, elles, mais dans le deuxième livre principalement, nettement marquées, comme on l'a dit, par la tradition zoologique ancienne. Quelques éléments sur cette méthode, sur la formulation du sens. Dans une des communications, il a déjà été évoqué la terminologie employée par Aura Pollon. Une idée est exprimée dès l'oustaï par une image, en ce qui concerne cet exposé un animal. Les Égyptiens dessinent lorsqu'ils veulent donc une figure, lorsqu'ils veulent signifier, parce que cet animal a telle caractéristique. Ces caractéristiques présentent une analogie, une similitude avec une propriété de l'idée. Et on constate alors entre le premier livre et le deuxième livre qu'il y a une communauté de terminologie. En fait, ils emploient tous parfois boulomenoi semenai, boulomenoi delustai ou boulomenoi plus graphein. La seule différence, c'est que le premier livre emploie graphein ou grapsai, alors que le deuxième livre emploie zoo. Grapsai, mais c'est la seule différence dans ces éléments. Ce qui veut dire que dessiner et signifier se disent également graphein. Et il y a une équivalence fonctionnelle des formules de même que, donc l'animal se comporte de la même façon que le sens du signe, et signifie que. Il y a... En outre, si l'on étudie alors à grands traits le dispositif sémiologique des hiéroglyphicas, une sorte de circularité de la signification. Je n'ai pas essayé de repérer systématiquement ces occurrences, mais quelques-unes néanmoins, enfin une néanmoins. Vous le voyez dans cet exemple du faucon, c'est le texte 2. Puisque le nom du faucon contient le mot âme, le dessin du faucon signifie l'âme. Mais un peu plus tard, on a, puisque son nom, le nom du faucon est celui de l'âme, le faucon ne boit que du sang. À fou, il s'ensuit que. Comme si le faucon suivait le programme de son nom. Il s'agit en somme d'un essai d'interprétation et non pas de déchiffrement. Il s'agit de trouver une logique culturelle et sémantique et non pas de proposer un dictionnaire des hiéroglyphes. C'est l'exposé d'une logique donc culturelle, des motivations naturelles des signes graphiques égyptiens, où les connexions culturelles sont extrêmement nombreuses, on en a évoqué précédemment quelques-unes, sont souvent pertinentes, même si je ne crois pas que le projet soit de réaliser une encyclopédie de la culture égyptienne, du point de vue égyptologique. Ce qu'il est moins, ce sont les traductions des signes, comme on l'a vu. Horapollon interprète les hiéroglyphes comme des symboles, donc en cherchant la motivation culturelle qui a présidé à la sélection des signes et qui s'exprime dans les usages emblématiques. On le voit au fait que souvent, Horapollon signale pour justifier une interprétation la figure dans un contexte qui est imagé, donc le mode emblématique, et non pas d'écriture. La stratégie sémiotique est une sorte de motivation réciproque. Le lion représente la veille, car il garde les yeux ouverts quand il dort. Les serrures ont des lions, car ils représentent la veille. Dans le chapitre sur le scarabée, le caractère ou le dessin est interprété à partir de son statut d'animal consacré. Il se dessine à travers ce chapitre, et c'est le texte 9, un réseau unique de trois animaux sacrés, le chat, le taureau et l'ibis, avec des traits sur mesure, en particulier pour le scarabée féliforme, et une double motivation. Il porte des raies comme le soleil, et il modifie les prunelles de ses yeux suivant le cours du soleil, qui permet donc, au-delà du caractère hiéroglyphique, d'interpréter des déclarations, des usages égyptiens et des figures divines. Donc la recherche de la motivation des signes proposés par Apollon s'appuie sur des jeux de mots phonétiques, sur des métonymies, mais beaucoup sur des données naturalistes, avec une amplification de cette partie au-delà du nécessaire. Il y a des détails qui n'ont plus rien à voir avec le sens du hiéroglyphe qui sert alors de prétexte. C'est un luxe significatif puisqu'il montre que la nature animale est un argument et que c'est un ancrage fort qui manifeste le désir de fonder le signe sur la nature. Je passe au dossier je ne sais pas si on voit très bien, j'espère, au dossier de confrontation entre ces trois textes. Il y a de nombreux animaux communs entre les trois textes, vous en avez la liste ici, mais très peu de traits partagés. C'est-à-dire que l'élément pivot pour la signification, l'interprétation, est très rarement le même. Il est ici signalé par ce qui est en vert. Donc vous voyez qu'il y en a fort peu. Le traitement, même dans ces cas rares, est généralement différent, alors que souvent, Cyranide et Physiologos, je n'ai pas noté leur convergence, forment un front commun sur les animaux qu'ils partagent. Alors, quelques exemples de ce premier dossier. Le premier, c'est la corneille, dont il a été question tout à l'heure. Sur la fidélité conjugale et traditionnelle de la corneille, illustrant, et c'est le texte 3, Arès et Aphrodite. La corneille va porter le mythe, et un mythe grec, sur Arès et Aphrodite. Mais de la lecture précise du texte, on conclut que celle-ci, cette fidélité, est rare, puisque c'est quand deux mâles ou deux femelles ont été engendrés, ce qui arrive rarement, les mâles qui ont épousé les femelles ne s'accouplent à aucune autre corneille. Autrement dit, ils ne s'accouplent plus comme avant, ou en tout cas, ils restreignent la fidélité conjugale. Alors que donc, cette fidélité est évidemment exemplaire dans les autres textes et justifie des usages magiques dans les Cyranides. Donc, divergence. Concernant le serpent, la particularité principale des hiéroglyphica vis-à-vis du front commun représenté par le Physiologus et les Cyranides est que la mue rajeunissante est annuelle et non pas liée à la vieillesse. Alors, c'est une divergence qui permet de cadrer avec le sens attribué au hiéroglyphe, qui est la révolution périodique et annuelle de l'univers, Catecaston de Newton. Les hiéroglyphes et le Physiologus partagent un trait commun pour la HUP, modèle filial, modèle de dévouement filial, à ceci près, c'est le texte 5, qu'il vise ici, c'est-à-dire pour les, dans les hiéroglyphica, à remettre sur pied leurs parents, alors que dans les, le Physiologus, il s'agit de les rajeunir. Autre exemple, je passe assez rapidement, vous, aurez les, vous pourrez regarder les textes de plus près, concernant la, la cigogne. Alors, c'est le texte 6. La cigogne offre une paire rare, puisque les hiéroglyphica et les cyranides coïncident globalement. Dans les hiéroglyphica, la cigogne demeure avec ses parents. Dans les cyranides, elle les transporte avec elle là où elle va. Tandis que le Physiologus, mais il s'agit de la deuxième recension, n'offre aucune contrepartie filiale. Il est intéressant, à ce titre, de voir que, et c'est dans l'esprit de la justification de cette comparaison entre ces trois textes, dans les cyranides, les vertus thérapeutiques des organes de la cigogne sont majoritairement liées aux deux descriptions éthologiques qui sont présentées, la migration et le combat contre les oiseaux. Ils sont donc favorables à la vue, à la mobilité, au succès. Ce lien entre les traits éthologiques ou naturalistes notés et les usages thérapeutiques sont illustrés de manière tout à fait exemplaire pour l'ours, qui est un animal quasi-humain, et c'est tout le corps qui, dans ce cas, par sympathie organique, sert aux pathologies humaines, les parties servant à améliorer des pathologies liées à l'organe similaire chez l'homme. Le vautour apollinien signifie, parmi les 10 valeurs qui sont les siennes, la mer. Et à ce titre, parce qu'il signifie la mer, il attire à lui une caractéristique traditionnelle du pélican. Il se saigne pour ses petits. Dans le Physiologus et dans les cyranides, ce qui est prêté au vautour est en fait une caractéristique du pélican. Il s'ouvre la cuisse puis permet à ses rejetons de prendre de son sang pour éviter qu'ils périssent faute de nourriture, alors que dans le cas du Physiologus, il s'agit de résurrection. Et c'est la même chose pour les cyranides. Le motif est donc décalé. Une juxtaposition des valeurs du vautour ou de ce que le Physiologus appellerait ses natures dans les trois textes montre un éventail d'options absolument considérable. En jaune, vous avez dans le Physiologus première recension, c'est simplement accouchement difficile. Dans le Physiologus 2, il est glouton et charognard. En rouge, ce sont les valeurs données aux hiéroglyphes, en tout cas aux signes du vautour, et dans Rapollon. Et en vert, ce sont les maladies qui sont traitées avec une convergence ici, mère, anticonception, filtre d'amour, anti-hémorragique peut-être lié aussi à des particularités évidentes, vue, cataracte, donc, et victoire, éloquence. Bon, certains ne s'expliquent pas aussi facilement, mais vous voyez qu'il y a à la fois une très grande palette, un animal n'a pas qu'une nature évidemment, et également une sorte d'analogie ou de correspondance avec des traits éthologiques. On pourrait multiplier les exemples de ces discordances, de ces réajustements que l'on peut interpréter comme des méprises ou comme des détournements volontaires. Ainsi, pour le babouin ou le cynocéphale, le pithécos du Physiologus, qui urine toutes les heures aux équinoxes, selon les hiéroglyphica, vous voyez qu'il y a une petite différence pour le Physiologus. S'il urine 7 fois au cours de la nuit, c'est l'équinoxe. L'importance de marquer l'équinoxe est moins nette dans le cas du Physiologus que pour les hiéroglyphica. Le deuxième dossier que je voudrais rapidement passer, que je ne pourrais pas développer, porte sur Rapollon 2, en quelque sorte, donc 31-119, sauf 108, ou Philippe, sur les singularités du traitement des données traditionnelles par un auteur hellénisé, et donc qui n'a pas d'excuse de ne pas connaître ces textes. Donc la piste, si vous voulez, pour cet auteur est encore la piste d'une mauvaise information, me semble moins forte encore. Alors vous en avez ici la liste, et vous voyez, au Rapollon 2, les convergences avec le Physiologus sont nettes pour salamandre, castor et hyène, mais elles sont assez basiques, et pour le phénix et la vipère, il y a des convergences partielle. Dans la section, alors vous avez ici les textes, vous voyez, je vous ai indiqué simplement le texte des Hieroglyphica. Voulant signifier une femme qui accomplit les travaux de l'homme, il peigne une belette, car celle-ci a les parties sexuelles du mâle de la forme d'un petit os. Non, c'est le mâle qui a, paraît-il, un sexe qui est un os, c'est pas du tout. Donc là, il y a une claire déformation. Pour signifier un vieillard qui s'adonne à la musique, il peigne un cygne, car celui-ci chante ses plus douces mélodies. Quand il devient vieux, non, c'est juste au moment de mourir, etc. Donc là, j'ai groupé dans le premier bloc des données marquées par une reformulation du contexte. Dans le deuxième, il s'agit de mutations d'éléments canoniques. Vous voyez que l'ichneumon, qui s'enduit de boue lorsqu'il va combattre le serpent traditionnellement, ici, il ne l'attaque pas sans avoir appelé d'autres secours, il combat en meute. Pour le lion, il s'agit d'une caractéristique peut-être dont il sera question plus tard. Je passe. Il y a parfois une inversion des qualités, en particulier outarde et cheval. Cet oiseau s'envole quand il voit un cheval. Pas du tout, on dit partout que l'outarde et le cheval s'adorent mutuellement. C'est un type même de sympathie. La panthère ne cache pas sa bonne odeur. Elle s'appuie sur cette bonne odeur pour chasser. Le chameau, dont les pieds sont longs à se mouvoir, c'est pas du tout conforme à ce que l'on trouve ailleurs. La belette devient une belette de mer. L'homme qui pourvoit l'avance à sa sépulture, c'est l'éléphant, parce que l'éléphant, lorsque ses défenses tombent, les prend et les enfouit. En fait, c'est une confusion classique entre l'éléphas et la fosse. Et enfin, un homme faible, il peigne une chauve-souris. Là, on touche à l'absurde. Hein. Celle-ci vole, bien que n'ayant pas de plumes. Vraiment, c'est comme si c'était ce qu'il y avait à dire sur la chauve-souris. Alors, dans les trois textes, l'opération essentielle consiste donc dans l'usage, non pas de l'animal, mais de la figure, mais d'une figure en composition. La portée pratique dans les cyranides s'ajoute à un programme de signification qui fonde l'exploitation thérapeutique. Si le savoir, comme je l'ai dit, est souvent implicite, on a souvent « il est connu de tous » et puis on passe « passi gnoston » et on passe à autre chose, les opérations reposent clairement, quand on s'attache à les détailler, sur des caractéristiques naturalistes. Les deux autres recueils développe seulement la motivation du signe par les caractéristiques naturelles, Hieroglyphica et Physiologus, de l'animal. La nature doit fonder, son rôle est de fonder donc un signe humain. Alors que la tradition zoologique aristotélicienne développe un récit et une description avec une justification physique des propriétés générales, ces collections proposent trois régimes de figures animales dans un système de signification en deux parties, un haut sens et un motif ou une motivation zoologique. Les auteurs égypto-grecs composent donc une figure à partir de traditions du portrait pour servir une fonction ancrée dans le système culturel. Une fonction herméneutique, exhortative, thérapeutique selon les cas. Donc dans cette composition naturaliste, ils n'inventent pas, mais ils réemploient et éventuellement embellissent ou modifient les données traditionnelles. Ce travail s'inscrit donc cette opération, pleinement dans l'exégèse alexandrine, que j'ai appelée gréco-égyptienne à cause de l'ambiguïté du terme d'alexandrin, aux nombreuses dimensions, exégèse théologique, interprétation des songes, commentaires philologiques ou philosophiques, etc., sans doute influencée par la tradition égyptienne aussi, mais c'est un aspect que je ne peux pas développer. En conclusion, doit-on considérer comme une forme de dégénération qui était initialement dans mon titre, sans point d'interrogation, ou de dénaturation, des subversions sémiotiques et des détournements opérés par les auteurs sur les données naturalistes traditionnelles, voire, au regard des données de l'expérience commune, parfois la plus élémentaire. Leur nombre est très important, je n'en ai pas fait l'inventaire complet, mais signaler simplement quelques exemples. La cause de cet écart peut être le brassage informatif, mutation des informations, amalgame, etc., des glissements linguistiques, des confusions involontaires, c'est un ensemble de causes qu'on pourrait appeler de déformations passives. Mais il y a une subversion active, je crois, et pas nécessairement pleinement consciente, comme dans tout malentendu ou toute réécriture événementielle ou informative, lorsqu'on retransmet une information, qui coïncide, et ça peut être un projet, avec d'autres schémas et qui vise à l'harmoniser avec d'autres brins de savoir, à moins que ce soit simplement guidé par une intentio auctoris. On fabrique du mythique sans le savoir, avec de l'histoire naturelle, comme on fabrique toujours du mythique, encore aujourd'hui, avec l'histoire humaine. Il y a donc un alignement des données, parce qu'en fait, on pense que, généralement, les interprétations varient à partir d'un interpretandum qui est fixé et constant. C'est faux. La nature n'est pas une Bible, n'est pas même un texte, et donc la notation zoologique elle-même varie et est ouverte à la variation constante, car elle est construite simultanément avec l'interprétation. On le voit parfaitement avec le physiologus. Il y a un jeu de symétrie, de feedback, d'interaction. On construit donc un signe, pas une interprétation seule. Les données traditionnelles sont donc par réflexion symbolique, harmonisation, modifiées et adaptées au sens des signes culturels. Les données naturalistes exposées dans ces textes sont en partie des transformations de données héritées, en partie inédites, en tout cas le fruit de cette opération. La motivation des signes graphiques proposés par Aurapollon est donc une reformulation de savoir et, plus profondément peut-être, une nouvelle justification du savoir naturaliste. À quoi sert le savoir naturaliste ? La valeur ne réside pas dans la connaissance même de la nature, la compréhension des phénomènes naturels, comme dans la tradition philosophique ancienne et aristotélicienne. Ce savoir devient une condition de la compréhension culturelle, une clé d'interprétation. Dans le cas du physiologus, on peut considérer que cette double motivation existe aussi. Motivation des signes et de l'usage des figures animales dans l'écriture, pour comprendre l'écriture, et justification du savoir naturaliste comme étant une production de la création qui est un médiateur théologique, une clé de la compréhension des mystères chrétiens et de l'attente morale qui pèse sur l'homme auquel Dieu montre la voie par ses créatures. Pour Aurapollon, donc, il s'agit de faire converger les deux faces du signe, une figure précise, le signe hiéroglyphique, et un sens ou une donnée jugée établie, enfin un sens jugé établi, en trouvant des motivations symboliques pour articuler l'une et l'autre. Le savoir zoologique s'intègre en mutation, s'intègre dans un système culturel qui détermine ses énoncés et définit globalement ce qui est réel. Son évolution, car il a une évolution, est liée en partie à la volonté d'acclimatation de ceux qui s'en servent. On peut considérer les données naturalistes comme une sorte de cadre de référence et de données à faire varier en fonction du type de savoir à développer, s'il est théologique, s'il est allégorique, thérapeutique, éthologique, moral, etc. Avec une plasticité. Ce serait peut-être exagéré, mais pas totalement déplacé, d'y voir un analogue du mythe que les auteurs pourraient faire varier en fonction des projets de signification, comme un tragique fait varier dans la trame qu'il retient, une trame mythique dans sa composition, avec parfois des variations très importantes, sans ruiner d'ailleurs la confiance des auditeurs et des lecteurs dans sa fidélité à l'histoire. Merci.